Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet et vous écoutez Le Sacre, un podcast du Parisien. Chaque semaine, jusqu'à Paris 2024, un ou une médaillée d'or olympique retrace pour nous son chemin vers le sacre.
C'est Jean Galfione, regardez-le, il peut exploser, il peut aller voir Maurice Ouvion. Jean Galfione est champion olympique après un superbe concours.
Le 2 août 1996, à Atlanta, aux États-Unis, Jean Galfione devient champion olympique de saut à la perche avec une barre à 5,92 m. Nous allons découvrir aujourd'hui comment le jeune athlète hyperactif et touche-à-tout s'est mué en champion précis et ultra déterminé. Bonjour Jean Galfione.
Bonjour.
Elle est rangée où, votre médaille olympique ?
Ah, elle est chez moi, précieusement rangée. Je ne l'expose pas particulièrement, mais je la vois régulièrement. Elle croise mon regard.
Vous la regardez justement, même 28 ans après ?
De temps en temps, on me demande de la sortir pour la montrer dans les écoles, à des enfants ou d'autres occasions. J'ai toujours un petit peu de réticence. J'aime pas trop la balader, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est tellement fort et symbolique. C'est vrai que j'ai toujours une petite crainte de la promener, en tout cas.
Vous êtes né à Paris le 9 juin 1971. Vos parents sont tous les deux des athlètes de très haut niveau. Votre mère gymnaste, votre père épéiste. Le sport, il était très présent à la maison avec votre frère et votre sœur.
Eh bien, pas du tout. Enfin, la compétition n'était pas présente. Le sport, oui, parce que mes parents voulaient qu'on fasse du sport. Donc, du coup, on n'avait pas le choix. Mais ils n'insistaient pas particulièrement. Mon frère, ma soeur n'ont pas fait du sport à outrance, comme moi j'ai pu faire. Mais l'avantage des parents sportifs, c'est qu'ils ne m'ont jamais freiné.
Dans cette famille de sportifs, il y a également votre oncle, Jean-Claude Magnan, qui est vice-champion olympique de fleuret en 1964 à Tokyo. Ça a représenté quelque chose d'avoir un oncle médaillé olympique, peut-être dans sa façon de préparer un athlète, de se préparer physiquement.
J'étais très content d'avoir cette affiliation d'un champion comme Jean-Claude dans la famille, qui est mon parrain. Et en fait, moi, chez mes parents, il n'y avait pas de médaille, pas de coupe. On n'avait pas cette culture de la compétition, malgré les titres qu'ils avaient remportés. Chez Jean-Claude, un peu plus. Il y avait un grenier où il y avait ses trophées. Et moi, j'adorais me plonger dans ses trophées. Je comprenais un peu ce que ça représentait, mais j'étais petit. Je ne connaissais pas bien son histoire à ce moment-là.
Les débuts à la perche, c'est à 12 ans. Et ce n'est pas reluisant, il me semble.
En fait, j'étais plutôt un enfant coordonné. Pas forcément des grandes qualités physiques, mais quand je commençais une activité, le fait d'avoir commencé tôt, souvent, dès que je faisais un sport, je m'en sortais bien. J'arrivais tout de suite à faire des petites performances, faire parmi les meilleurs. Et puis, j'ai eu envie de faire de la perche. Et donc, à un moment donné, il y a un entraîneur qui s'est dit « Bon, je peux peut-être entraîner un peu. » Moi, je faisais déjà un peu d'athlétisme. Et quand il a sorti les perches, on s'est mis en bout de piste, on a essayé. Moi, j'étais nul. Mais vraiment le plus nul de tout le groupe. J'étais vexé, mais alors à un point qu'ensuite, les semaines qui ont suivi, je séchais l'école. Et j'allais voir le gardien, je lui prenais les clés, et j'ouvrais le coffre où les perches étaient rangées, je préparais le sautoir et je sautais tout seul. Jusqu'à ce que j'arrive à décoller, mais pas du bon pied, en faisant n'importe quoi, mais l'honneur était sauvé. Après, je me suis beaucoup accroché à cette discipline parce qu'elle était difficile en fait, et qu'il fallait plein d'autres qualités que les simples qualités physiques.
Le sport, c'est un moyen de pas trop penser à l'école où ça se passe pas bien du tout ?
Ah mais oui, c'était un cauchemar. L'école, pour moi, c'était vraiment la punition. J'attendais qu'une seule chose, c'est que la cloche sonne. Je n'arrivais pas à tenir assis. C'était douloureux, vraiment, physiquement, d'être assis sur une chaise. Du coup, c'était super important pour moi de trouver ma place par le sport. Et ensuite, j'ai commencé à faire des petites compétitions dans différentes épreuves, différents sports et différentes épreuves de l'athlétisme. J'ai eu quelques petits résultats qui fait que je me retrouvais, ça y est, j'existais. J'avais l'impression que j'étais, qu'on me regardait, qu'on me considérait parce que je faisais du sport et parce que j'avais un début de petite performance qui était notable.
Vous parlez de recherche de confiance à l'adolescence. Il y a aussi la recherche de sensations fortes. Jeune, vous étiez plutôt du genre casse-cou à escalader les grues pour aller voir comment c'est Paris de là-haut, à sauter du premier étage avec un parapluie ?
En fait, je suis pas un fou furieux, quoi, un inconscient, mais j'aime bien ces petites recherches de sensations, d'aventure, d'audace. Alors en effet, oui, gamin, je montais sur les grues des chantiers pour aller voir Paris du haut et j'aimais bien ces... avoir ce sentiment que personne ne pouvait voir cette vue à part moi. Voilà. J'escaladais, je sautais, oui, je faisais des tentatives, je sautais avec des parapluies du premier étage pour voir ce qui se passait.
Et il se passe quoi?
Et bien, il se passe qu'on se prend des gros gadins, ça ne marche pas. Quoi.
Mary Poppins, ça ne marche pas.
Et puis, non, j'ai beaucoup de rollers aussi quand j'habitais à Paris. Je vivais avec des patins à roulettes et donc je tentais... de sauter tout ce qui pouvait sauter, les marches du Trocadéro, et je me prenais aussi des bonnes pelles, hein, que je revenais souvent avec quelques égratignures à la maison.
La rencontre avec celui qui sera votre entraîneur pour la vie, Maurice Ouvion, elle va complètement changer votre façon de voir les choses. Vous avez 15 ans.
En fait, je rencontre Maurice. Il avait entendu parler de moi, d'un petit jeune de l'autre côté de Paris qui était un petit peu volontaire. Et donc je le croise, il me dit bon bah viens me voir à l'entraînement, je sais pas, c'était quelques jours après, donc j'ai pris ma mobylette, j'ai traversé Paris, je suis à les portes de Pantin, et il m'attendait avec son groupe d'entraînement, et moi je venais en compétition quoi, je venais démontrer que ces athlètes, j'allais les battre, c'était pas du tout, je viens prendre une expérience auprès du pape de la perche, et donc quand il m'a vu arriver, il m'a vu faire... Et j'aime bien quand il raconte ce qu'il dit. Il me dit qu'en voyant la situation, il dit alors lui, je vais bien m'emmerder avec lui. Quoi. Ça va vraiment être pas du gâteau. Quoi. Et puis en fait, après cette séance, en tout cas, il m'a convié à revenir à m'entraîner avec lui, mais à l'INSEP. Moi, j'avais pas du tout le niveau, hein, mais c'était exprès, évidemment. Il voulait voir jusqu'où un peu pour.
Vous étiez téméraire.
Oui, puis peut-être pour me calmer un petit peu, pour comprendre que les choses se méritent, j'en sais rien. En tout cas, j'ai dû faire le mur pour rentrer à l'INSEP. Je suis passé par la grille au-dessus. Il m'a vu arriver, ça a beaucoup fait rire. Et à ce moment-là, mon histoire a commencé avec Maurice. Et c'est pas une histoire d'entraîneur entraîné, c'est bien, ça va beaucoup plus loin, bien sûr. C'est quelqu'un qui m'a inspiré, qui m'inspire encore tout au long de ma vie. Et qui a fait que j'ai vécu cette vie d'athlète, de sportif, d'une manière le plus passionnante qu'on peut imaginer.
Après avoir fait le mur, vous y rentrez comment à l'INSEP officiellement ?
Ah non, il y a eu des étapes. Après, j'ai eu le droit d'avoir une carte, mais c'était pas ma photo sur la carte, c'est pas mon nom.
Donc vous avez pris la carte de quelqu'un ?
Oui, qui venait plus. Mais bon, donc je bidouillais, quoi. Je bidouillais. Donc, je suis rentré à l'INSEP de cette façon. Puis vite, en réalité, j'ai fait des performances qui m'ont permis d'avoir ma propre carte et rentrer devant le gardien avec un grand sourire qui me disait « Je suis bizarre, celui-là. Je l'ai déjà vu passer. »
Avec une autre carte,
ouais.
Mais...
Et puis, après, j'ai été dans le circuit du très haut niveau dès les jeunes catégories.
En un an, avec Maurice Ouvion, vous sautez 5m16, vous battez le record de France cadet. Comment est-ce qu'on passe du jeune homme qui découvre le saut à la perche et n'arrive pas à décoller à champion de France cadet? C'était en 88, vous aviez 17 ans.
En un an, j'ai gagné, même pas en 6 mois, 1 mètre. Donc c'était un peu la révélation et en effet je finis en mois de septembre à battre le record de France cadet. Donc d'un coup je rentrais dans la cour des grands et puis avec très peu d'expérience, avec 3-4 ans de perche. Donc le travail était encore énorme, néanmoins j'avais l'impression que rien n'était, à partir de ce moment, rien n'était inaccessible. Et je pense que c'était le plus grand travail de Maurice, c'est-à-dire que... Très tôt, il m'a fait comprendre que ma place était parmi les meilleurs, était tout en haut, alors que moi qui venais tout en bas, quoi. Et dans la confiance en tout et dans la représentation de ce que j'étais, extrêmement complexé, jamais imaginé que j'allais être le premier de quelque chose un jour. Donc c'est ça qui m'a apporté. Et à partir de là, tout était permis.
En février 1990, vous êtes encore junior, vous avez 18 ans, mais vous décidez de vous inscrire au championnat de France en salle, senior.
Je m'inscris pour participer au championnat de France senior alors que j'étais que junior, en me disant ça sera une expérience. Donc je vais à Bordeaux au championnat de France, je saute 5m40, je crois que j'égale mon record ou je suis pas loin et je finis le concours. C'était une période, il y avait des perchistes qui étaient en France, il y en avait 3 ou 4 qui sautaient 5,80, 5,90. Hein. Donc je retourne dans les tribunes en me disant bon bah maintenant on va assister au concours des grands, ça va être trop bien quoi. Moi j'avais pris mon expérience et je mangeais un sandwich aux rillettes dans les tribunes, je m'étais rhabillé et puis les grands sautent et ils font tous zéro. Enfin, il y en a trois qui font zéro et un qui fait juste 5,40. Et du coup, les juges regardent la feuille de concours et disent « Bon, bah, il y a barrage. Il est où, Gelfion ?» Il est en barrage avec un des seniors. Et donc, on m'appelle. Je dis « Bon, qu'est-ce qui se passe ?» Et trois quarts d'heure après, je redescends. J'avais mangé mon sandwich aux rillettes. Je remets mes pointes, je reprends mes marches, je ressors mes perches. Et je retourne en bout de piste, et donc barrage, et je finis par gagner ce titre de champion de France. Alors, pas haut, hein, mais c'était un concours de circonstances. C'était complètement imprévu. Ouais.
Et on démarre les compétitions internationales, notamment ces championnats du monde junior d'athlétisme à Plovdiv, en Bulgarie. Nous sommes le jeudi 9 août 1990. vous décrochez votre première médaille mondiale à 19 ans avec un saut à 5,45 m. Vous gardez quel souvenir de cette compétition ?
C'était assez incroyable parce que 1990, dans les pays de l'Est, en Bulgarie, c'était vraiment quelques mois après la chute du mur et le pays n'était pas du tout encore reparti sur des rails de la modernité, on va dire. Mais en tout cas, c'était très impressionnant parce que nous, on était juniors et on arrivait d'un coup propulsé à 2 heures d'avion de Paris dans un pays où les gens faisaient la queue pour aller se nourrir. Il y avait des rationnements. Il n'y avait aucun lampadaire dans la ville. Donc nous, on montait sur le toit de l'hôtel le soir et c'est une ville morte. Et d'un coup, on prenait conscience de ce qu'était le monde aussi.
Enfin, bien sûr.
On se rendait bien compte qu'on avait une chance absolue de faire ce qu'on faisait. Ensuite, mon titre de champion du monde, faut bien voir que le stade n'était pas terminé quand même. Hein. Les travaux n'étaient pas finis. Et donc, pour éclairer la fin du concours, il n'y avait pas de lampadaire. Donc ils ont fait rentrer des voitures. Ça s'est fini au feu de voiture quoi, pour éclairer la piste. Donc, en même temps, c'était un titre de champion du monde. C'était le début du très haut niveau pour moi. Donc ça a été le basculement de ma carrière à ce moment-là.
L'année suivante, justement, ce sont les championnats du monde senior. Cette fois, ils se déroulent à Tokyo, au Japon, et vous décrochez la 10e place avec un saut à 5,40 m. Sergueï Boubka, figure emblématique du saut à la perche, est champion du monde en passant, lui, une barre à 5,95. Vous commencez à réaliser qu'au rythme où vous progressez, vous y êtes presque.
En fait, à Tokyo, 5,40, ce n'était pas une bonne performance encore. Pour moi, à l'époque, j'avais fait, je crois, plus de 5,80 dans la saison. Peu importe, ce qui était très important, en effet, ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie, parce que j'ai la photo, c'est que sur l'écran géant du stade, d'un coup, l'écran géant est séparé en deux. D'un côté, il y a moi, en bout de piste, et de l'autre côté, il y a Carl Lewis. Et moi, j'ai 20 ans, quoi. Et il y avait Carl Lewis qui partageait l'écran géant du stade avec moi. Alors, on a fait cette photo.
C'est inouï.
C'est inouï. Ouais, c'était un souvenir incroyable, plus que la performance. Mais c'était d'une expérience extrêmement constructive pour la suite de ma carrière parce que j'étais avec les meilleurs du monde, pas que en performance, mais aussi dans le comportement, dans l'échange, dans la discussion. Et tout a commencé à se construire à partir de là, quoi.
Les Jeux Olympiques de Barcelone, en Espagne, se déroulent du 25 juillet au 9 août 1992. Ce sont vos premiers Jeux. Vous les vivez comment ?
Déjà, l'année qui avait précédé, j'avais fait une grosse performance. J'avais fait, je crois, 5,90, avec beaucoup d'irrégularités. Je ne maîtrisais pas encore tout à très très haut niveau. De temps en temps, ça montait très haut. Et puis, je n'arrivais pas à reproduire, peut-être la semaine qui suivait ou à la compète qui suivait. Tout le monde savait que j'étais capable de remporter une médaille dès les premiers Jeux. Et moi, je suis arrivé à Barcelone, j'avais pas forcément l'idée que je pouvais prendre une médaille, mais je savais que sur le bilan mondial, j'étais bien situé. Et j'ai mal géré plein de choses, plein de détails, qui fait que je suis arrivé le jour des qualifications, j'étais complètement cuit. Moi, j'étais complètement perdu, mes deux premiers sauts faciles, et après, je me suis mis à faire des calculs, à regarder l'entraîneur, à voir si les autres passaient pas. Et en fait, j'oublie juste un truc, c'est qu'il fallait rester très très concentré sur son geste, parce que la pression, elle est énorme, on est au jeu. Donc je suis le premier à ne pas être qualifié en finale, très déçu, très frustré. J'ai pas tout de suite tout compris pourquoi j'avais raté, donc il y a eu une longue conversation avec plusieurs fois avec Maurice. Donc en fait ce qui était intéressant c'est que j'ai compris qu'au jeu, ce qui compte c'est ça quoi, c'est la gestion du détail, c'est pas simplement avoir sauté très haut dans la saison et montrer qu'on existe. Puis je suis reparti faire des meetings derrière les jeux, j'ai fait des bonnes performances derrière. Mais j'avais les crocs, mais de prouver, de montrer au monde entier que ma place n'était pas être 13e d'un concours avec les meilleurs du monde.
Justement, les meilleurs du monde, ils se retrouvent à ces mondiaux en salle qui se déroulent du 12 au 14 mars 1993 à Toronto, au Canada. Et vous décrochez la médaille de bronze avec un saut à 5,80. Cette médaille de bronze, c'est la première médaille dans un championnat du monde ou une épreuve de Jeux Olympiques pour vous en senior.
En senior, c'est ma première médaille en senior, donc championnat du monde. C'était l'ambiance américaine, enfin à la canadienne, mais à l'américaine, hein, Toronto. Et c'était un voyage génial. Hein. J'avais surtout une rage incroyable. Et donc, en effet, je décroche la médaille de bronze. Et là, à partir de ce moment-là, ça y est, j'avais confirmé que maintenant, il fallait compter avec moi sur les podiums. Et à partir de ce jour, je sais que mes adversaires aussi ont compris qu'il fallait compter avec moi.
L'année décisive, c'est 1995. Le vendredi 11 août ont lieu les championnats du monde à Göteborg, en Suède. Mais avant cela, vous participez à plusieurs meetings, plusieurs compétitions pour vous préparer.
C'est une année compliquée parce que je crois que je suis assez fort en début de saison et après je me fais une entorse sur un coude et j'ai du mal à revenir à très haut niveau. Grosse perte de confiance, je saute contracté comme à chaque fois quand ça, on a des doutes. Et ça passe pas, j'enchaîne les concours 5m30, 40, 50 et puis en fait c'est un peu désespérant parce que...
C'est pas votre niveau.
Non, parce que tous les tests physiques à l'entraînement sont très très bons, mais c'est dès que je suis en compétition, je suis à côté de la plaque parce que je me mets une pression dingue, parce que je me libère pas. Et en fait, avec Maurice, on part à Monaco, c'était un peu la dernière chance. On dit, bon, meeting de Monaco, si ça passe là, tu voches pas du monde, sinon c'est pas la peine quoi. Et donc je vais à Monaco et là je fais pareil, 5,40 et nul. Mais Maurice était là et il avait tout filmé et après on prend une heure ou deux ensemble et on décortique tout mon concours. Et je vois en effet qu'en fait c'est juste la tête dans les épaules et je suis contracté. Et plutôt que m'engueuler ou être désespéré, il est très content, il est très optimiste, il me dit... Regarde, t'es comme moi, t'as les mêmes yeux, tu sais ouais. Maintenant, tout va bien en fin de compte. Et puis le lendemain, il y avait un bus qui partait pour le meeting de Sestriere,
en Italie,
à 2000 mètres d'altitude, à la station de ski. Et du coup, mon manager m'inscrit. Donc je monte dans le bus avec mes perches et je pars à Sestriere. Et je saute là-bas et je refais une performance. Quoi. Je refais 5,85, ce qui me libère complètement en me disant, ça y est, je suis dans le coup. Donc je vais à Göteborg, assez le cœur léger. J'ai du mal à passer les qualifications, ça arrive. Mm-hmm. Et j'arrive en finale et je fais troisième, 5,86 au premier essai. Derrière Sergei Bubka qui fait 5,92.
Bubka, c'était son cinquième titre mondial consécutif.
Ouais, c'est ça. Oui, non, mais Bubka, on n'en parle pas. C'était quand même incroyable. Et là, je me retrouve en conférence de presse. Et à côté de... Puis Sergei Bubka, c'était comme la star absolue de l'athlétisme à l'époque. Hein.
Mondial,
bien sûr. Puis à un moment, il y a quand même une question pour moi. Il me dit, bon, Jean, c'était inattendu de te voir sur le podium. Et alors, j'étais pas un athlète à fanfaronner et puis à provoquer mes adversaires. Mais là, je prends le micro, je dis, oui, mais là, je fais troisième cette année. Mais je sais que l'année prochaine, je gagne. Et grand blanc, et je vois Sergei qui me regarde d'un coup, sa tête tourne vers moi me regardant avec un petit sourire, il est fou lui.
C'est quoi ce petit jeune?
Mais honnêtement, c'était pas pour le provoquer, c'est que c'était la vraie sensation, le vrai sentiment que j'avais. Mais après, il y a eu toute cette année en effet de préparation après ces championnats du monde, il y a eu plein de meetings qu'on suivit déjà, qui étaient très importants dans la préparation, parce qu'à chaque fois j'étais sur les podiums. Donc ça voulait dire vraiment en régularité, si j'y étais quoi.
Yes Meeting à Moscou.
Je savais que vous alliez me parler de ça.
Vous débarquez à Moscou comme une fleur, sans visa.
En fait, je m'étais dit, la stratégie pour préparer les Jeux, c'est quoi? C'est d'aller affronter mes adversaires chez eux. Principalement, c'était des perchistes du bloc de l'Est, mm-hmm. qui étaient ensuite répartis dans différentes républiques. Donc Moscou, c'était vraiment l'endroit où ils se rassemblaient, ils sautaient. Les conditions souvent étaient réputées pour être difficiles. Donc, je demande à mon manager de m'inscrire au meeting. On part à Moscou et arrivé dans l'avion, je me rappelle, je lui dis, mais il ne faut pas un visa pour...
Accessoirement, pour aller en Russie.
Il dit, oui, t'inquiète, on va trouver ça sur place. Et puis, en fait, petit problème de compréhension ou d'information. On ne pouvait pas avoir de visa sur place. Et donc, pendant quelques heures, essayer de parlementer avec la police, la douane et la police moscovite qui ne parlent pas un mot d'anglais. Puis, à un moment donné, au bout de quelques heures, ils ont pris mon sac, ils m'ont pris par l'épaule, ils nous ont enfermés à la prison de l'aéroport. Donc en effet, on était enfermés avec quatre policiers à nous surveiller toute la nuit, qui tournaient. Et puis moi, j'essayais de dormir comme je pouvais, j'avais sorti toutes mes affaires de mon sac, j'avais fait une sorte de matelas, mais il faisait froid en plus. C'était du carrelage au sol. Donc, dormi sur le carrelage toute la nuit, avant la compète, c'était merveilleux. Et quand ils sont venus me chercher à 9h le matin, l'organisateur du meeting qui était tout embêté, il nous a sorti de là. Je suis arrivé à l'hôtel, souvent les meetings, les compétitions sont le soir, c'est 19h, 20h. Donc je me dis, je vais faire une bonne sieste, ça va le faire. Et puis en fait, là, début du meeting, début du concours de perche, midi et demi. Parce qu'en fait, à Moscou, l'après-midi, fin d'après-midi, la deuxième partie de l'après-midi, il fait très froid, même au mois de juin, quoi. Et donc du coup, ils font ça le matin. Je suis retourné directement au stade et j'arrive au stade et le vent était tourbillonnant en tous les sens. J'avais pas mes perches, je sais pas, ils avaient fait disparaître mes perches en plus. J'essaie de m'échauffer avec une perche d'un des perchistes russes, mais il m'a sorti une vieille pourrie de son étui.
Normal.
Bon, très bien, j'arrive pas à sauter avec. Enfin bon, ça, rien ne va, j'ai les yeux qui piquaient. Enfin,
pas dormi,
dis,
donc.
Bon, très bien, je vais aller visiter le Kremlin, ça sera déjà ça. Et puis je me suis assis pour assister au concours. Et puis d'un coup, mes perches arrivent. Il y a deux types qui déposent les perches sur le. Alors je dis, bon, bah, je sors la plus petite, je pars m'échauffer, je fais 3 accélérations. Donc n'importe quoi, normalement il faut 1 heure pour s'échauffer au moins. Je mets mes marques, c'était à peu près ça, et le vent se met à mettre dans le dos, donc ça c'était les conditions qui commençaient à devenir intéressantes, et je franchis au deuxième essai 5m20, en étant super heureux, en me disant, bon bah voilà, quand je vais raconter l'histoire, j'ai pas fait zéro, j'ai pu sauter au dernier moment, pour moi le concours était terminé. Puis la barre est à 5,40, on m'appelle, je dis bah oui, je suis encore dans le concours, bon bah je vais tenter, on sait jamais. Je passe 5m40, je dis bon, super, je reprends une perche plus dure, et puis ainsi de suite, et puis 5,40, 5,60, 5,70, 5,80 et 5,90. Et je fais égalité avec Sergei Boubka. Et je batte donc du coup tous les autres. Et donc c'était extrêmement constructif et pour la suite, surtout pour les Jeux, je pense, parce que tous les repères que je pouvais avoir, surtout quand on est athlète, hein, on se regarde beaucoup le nombril. Hein, donc est-ce que j'ai assez dormi, est-ce que j'ai bien mangé, est-ce que j'ai eu mon petit massage, est-ce que j'ai la sieste, etc. Donc là, il n'y avait rien. Et en fin de compte, j'arrivais à battre tout le monde.
Les Jeux Olympiques d'Atlanta, aux États-Unis, se déroulent du 19 juillet au 4 août 1996. Vous décidez, avec votre entraîneur Maurice Ouvion, d'arriver sur place au tout dernier moment, quelques jours seulement avant le début de votre compétition. Pourquoi ?
Quand on va dans une ambiance olympique, ça c'était l'expérience de 92, le village olympique, c'est ça vous bouffe ce truc-là. Vous êtes avec vos adversaires tous les jours, vous les croisez, avec des énormes champions que vous avez vus, que vous admirez dans plein d'autres sports. Vous êtes avec des gens qui ont raté, qui sont déçus et qui sont extrêmement négatifs. Des gens qui ont remporté des médailles et qui font bringue sur bringue. C'est pas simple à gérer tout ça, vous laissez un jus pas possible. Donc moi je me méfiais du village olympique d'être trop longtemps avant. Donc en fait on a décidé avec Maurice de partir en effet 2-3 jours avant. Ça a été compliqué parce que le comité olympique a refusé, n'a pas voulu. Donc on a dû acheter nos billets nous, on a dû payer notre déplacement pour aller aux Jeux. Et parallèlement à ça, on a pu rester pendant 2 semaines à Paris, à l'INSEP, à s'entraîner 2 fois par jour, le matin à la fraîche, le soir à la fraîche, en étant mais hyper serein, hyper calme, pas embêté par trop de journalistes, parce que ça, personne ne savait qu'on n'était pas à Atlanta. Et c'était une préparation exemplaire.
Nous voici donc à Atlanta. Vous arrivez donc 2 jours avant la compétition. Et dans le village olympique, vous vous retrouvez dans l'appartement qui vient d'être baptisé l'appartement de la lose, l'appartement de la défaite en bon français. Parfait comme entrée en matière. Alors, expliquez-nous pourquoi c'était l'appartement de la lose.
C'était l'appartement où les pongistes, les joueurs de ping-pong, habitaient. Donc Jean-Philippe Gatien, Damien Eloy. Et il s'était planté quoi, sur ces jeux, ça n'avait pas marché, donc il avait baptisé l'appartement de l'Anlouse, parce que tous ceux qui avaient habité dans cet appartement, il y avait d'autres sportifs, hein, il y avait 3-4 chambres, avaient raté leur jeu. Quoi. Et moi j'arrive à Atlanta avec Alain, qui était le deuxième perchiste, Alain G, et on les croise dans le couloir, il dit « Non, vous n'êtes pas dans cet appart, c'est l'appart de l'Anlouse !» On se dit « Bah n'importe quoi, mais non, tais-toi et tout !» Et donc on rentre dans l'appartement, et le soir même, ou le lendemain matin, Alain, il essaie de faire des pop-corns. Un sachet de pop-corn, je pense. Et donc, c'était un peu l'américaine, sauf que je pense qu'il maîtrisait pas bien le fonctionnement du four à micro-ondes. Et il a mis le feu à la cuisine. Donc, on a éteint le feu, et ça puait, il y avait un extincteur, donc on a réussi à régler le problème. Et là, j'y ai pensé, quoi. Je me suis dit, c'est pas vrai, c'est vraiment la part de la loose, merde.
Vendredi 2 août 1996, stade olympique du centenaire à Atlanta. Il fait chaud et humide. Et vous vous apprêtez à vivre un tournoi de la perche qui va durer 4h30. Vous arrivez dans quel état d'esprit au stade ?
À la perche, les qualifications, c'est extrêmement compliqué et difficile. Là, elle se passe très très bien. En 2 sauts, je me qualifie. Et la journée qui suit est extraordinaire. Parce que le sentiment du travail bien fait. Et on s'apprête à rentrer dans l'arène. Donc, je savais également que le détail était extrêmement important. C'était 4 ans de réflexion et de préparation. Donc tout a été théorisé, c'est-à-dire à la moindre minute de ce que je devais faire du moment où je rentrais sur le stade d'échauffement, combien de tours je devais m'échauffer, si je devais m'étirer à l'ombre, pas à l'ombre, pour pas subir la chaleur. J'avais calculé à quelle heure le soleil se couchait et que du coup la fraîcheur allait arriver, donc j'avais pris des poches de glace pour l'échauffement, etc. Donc j'arrive, je sors de la chambre d'appel, j'avais déjà mis mes pointes, Je prends mes marques, je pose ma chaussure, je vais en bout de piste avec ma petite paire, je fais deux sauts alors que les autres sont en train de prendre leurs mesures sur le butoir. Et moi, j'ai ce coup d'avance. Bon, j'étais extrêmement bien réglé, j'étais en grande confiance, donc c'était facile. Mais je fais deux sauts parfaits à l'échauffement, enfin parfaits pour me dire mes marques sont réglées et moi je suis bien. Et là, je vais me mettre à l'ombre. J'avais repéré
un
petit coin d'ombre sous l'angle du lampadaire, au milieu de la pelouse, et j'attends. Je suis bien, quoi. Je regarde de loin les adversaires, je suis à l'ombre. Et puis d'un coup, je tourne la tête et je regarde le stade olympique. Je vois la flamme olympique. Et là, je commence à avoir une petite boule au ventre là, qui vient. Et je fais non, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je suis trop loin, quoi. Et donc, je retourne en courant me mettre au milieu de mes adversaires, sur le banc. Voilà, et j'attends le début de concours sagement. Je commence à 5,60 m, donc mes marques étaient bien prises. Je prends la perche qui me permet de franchir cette hauteur. Je connais par cœur mon matériel, par cœur mes sensations de ce jour-là. Et donc je fais mon premier essai à 5,60 m. Au premier essai, très bien, perche un peu souple, enfin tout va bien. Ensuite 5,80 m et 5,80 m, je perds un peu le fil. Je ne mets plus la même intensité. Je saute vraiment comme si j'étais spectateur un petit peu du truc. Et donc je m'en veux énormément, ce que je me vois faire. Et ça me met un petit coup de pied au cul pour me rappeler le comportement que je dois avoir. Je passe au deuxième essai, avec une perche à nouveau qui redevient souple, donc tout va bien. Et ensuite, ça a une débarque qui commence à faire éliminer certains athlètes. Et je me dis, si je veux me mettre mon pied sur le podium, il faut que je passe au premier essai 86.
Au moment où Galfion donc s'élance, 5,86 m. Oui, oh oui, là, ça fait du bien cette affaire-là.
Regardez, ça le fait du bien. Maurice.
Je fais un très joli saut. Et c'est deux barres qui me permettent de me positionner en tête du concours, 86 et 92. C'est des sensations extraordinaires parce que là, j'ai un lâcher-prise total et un relâchement total. Et surtout un record olympique au premier essai. Et derrière, il faut aller me chercher parce que je prends la tête du concours. Et puis il faut aller me chercher parce que je passe au premier essai. Donc je mets en difficulté tous mes adversaires.
Alors on rappelle que Sergueï Boubka est diminué à cause d'une blessure. Il ne passe pas les qualifications. Et votre principal adversaire, c'est le Russe Igor Trandenkov. À ce moment-là, il est deuxième, juste derrière vous. Il s'apprête à faire son dernier saut.
Il reste un essai à Trandenkov. Si Trandenkov ne passe pas 6,02 m, le champion olympique, ce sera Jean Galfion.
S'il le rate, vous êtes champion olympique. Et à ce moment-là, on vous voit vous cacher le visage derrière votre serviette.
Tout le concours se joue maintenant sur ce saut. Jean Galfion est sur son banc avec sa serviette tendue, crispée. Trandenkov, lui, est en bout de piste.
Il y avait une caméra qui était posée sur moi, donc je voyais très bien.
Vous étiez en tête du concours.
On attendait ma réaction. Et donc, je mettais la serviette devant ma bouche parce que je me répétais, sois pas déçu d'être deuxième.
Il joue tout sur ce saut, le Russe, maintenant, qui était le favori. 6,02 m. Dans 5 secondes, on va savoir qui est champion olympique.
Et j'aurais trouvé ça horrible que Igor passe et que je fasse « Eh merde !» d'avoir un geste négatif à ce moment-là alors que j'aurais été deuxième médaille d'argent olympique. Quoi. J'avais peur d'avoir une mauvaise réaction qui aurait été moche. Voilà.
Dans 5 secondes, on va savoir qui est champion olympique.
Non !
C'est Galfion !
Et quand Igor rate, c'est la première personne que je vais voir et je lui tombe dans les bras.
C'est Jean Galfion, regardez-le, il peut exploser. Jean Galfion est champion olympique après un superbe concours. Il n'aura passé que, si j'ose dire, que 5,92. Mais au premier essai, il aura obligé ses adversaires à prendre des risques. Ça aurait été un modèle de concours tactique, un modèle de concours réussi aussi.
Vous réalisez à ce moment-là que vous venez de remporter le titre olympique ?
Oh non, j'ai l'impression d'avoir gagné les Jeux, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je me retourne vers les tribunes pour partager ça avec Maurice, bien sûr, et je ne le vois plus. Quoi. Tout le monde lui saute dessus, donc je saluais les tribunes en faisant semblant de dire bonjour à Maurice, je ne savais pas où il était. Quoi. On me jette le drapeau de l'équipe de France, bleu, blanc, rouge, je fais des photos avec, etc. Et puis je le plie. et je le range dans mon sac et j'allais partir. Igor Trendenkov, du coup, et Tchevonchik, l'Allemand qui fait troisième, viennent me chercher, dit non, Jean, tour d'honneur. Ah oui, tour d'honneur,
oui,
c'est vrai, il y a un tour d'honneur au jeu.
Ah oui, c'est
tout,
vrai, c'est les Jeux
gagné.
Olympiques.
Donc je ressors le drapeau bleu, blanc, rouge, j'empêche, j'étais en chaussettes, parce que moi j'étais en train de me rhabiller, et on fait le tour, et là je lève la tête au bord des tribunes, et il y avait, je sais pas, 70 000 personnes dans le stade olympique, et là je prends une chair de poule en me disant, la vache, il y a du monde. Ça fait 5 heures que j'étais sur le stade, quoi. Et j'avais pas réalisé ce que c'était, enfin le monde, le public, je m'étais pas imprégné de l'extérieur. Et donc je m'en rappelle de marcher sur la pelouse, de monter sur le podium, je me rappelle la voix du speaker, je me rappelle qu'on me remette la médaille autour du cou. Je descends de ce podium, je vais en conférence de presse. Là, je commence à réaliser un petit peu que c'est un peu un ouragan, là, on m'attend beaucoup. Je croise Maurice, enfin, on se tombe dans les bras, mais sauf qu'il y a 10 caméras autour de nous. Donc, on a déjà qu'on avait une relation avec beaucoup de pudeur. On ne s'est rien dit, on s'est regardé dans les yeux et ça voulait dire beaucoup plus.
Et ce jour-là, le jeune homme qui doutait beaucoup, qui était pas bon à l'école, il a disparu ?
Jamais. J'ai toujours été quelqu'un, ou un athlète en tout cas, qui doutait de lui, et je pense que c'était ma force. J'ai toujours l'impression de ne pas travailler assez, de ne pas faire assez les exercices, ou pas être concentré assez. Je me suis toujours méfié des certitudes. Mais je pense que c'était principalement ma force.
Merci beaucoup Jean Galfion.
Avec plaisir.
Vous venez d'écouter Le Sacre, le podcast Jeux Olympiques du Parisien. 24 épisodes jusqu'à Paris 2024, à retrouver sur toutes les plateformes. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy, Ambre Rosala et Thibault Lambert. Il a été réalisé par Julien Moncouquiole. Si vous aimez Le Sacre, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis on vous invite à aller écouter les autres podcasts du Parisien, Code Source, l'actualité au quotidien, et Crime Story, chaque samedi.